Bonjour, ici François Nardou. Aujourd'hui, début de la période solsticiale d'été qui va continuer jusque vers le 14 juillet, je vais vous parler des mythes, traditions, rites, coutumes du solstice d'été, qu'on appelle vulgairement la Saint-Jean d'été, qui donc s'oppose à la Saint-Jean d'hiver. Voyez déjà par là que, ainsi que le veut le dicton occitan, Saint-Jean et Saint-Jean séparent sous l'an, Saint-Jean d'hiver et Saint-Jean d'été se partagent l'année. Solstice d'hiver, solstice d'été. Qu'est-ce que c'est que le solstice ? En bon latin, ça veut dire la station, le point maximal atteint par le soleil dans sa course dans le ciel, soit vers le haut, soit vers le bas. À la Saint-Jean d'été, le 24 juin, fête de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Jean l'Évangéliste, le soleil est parvenu au zénith dans le ciel, au zénith du temps de l'année, de sa course diurne. Le soleil s'arrête de monter. En latin, on dit sol stat. Le soleil s'arrête. D'où le terme solis stitium, qui a donné solstice, la station au point maximal du soleil. Alors, ce point évolutif maximal de l'année solaire, opposé à celui de Noël, a suscité dans l'imaginaire des populations anciennes beaucoup de mythes, de rites, de légendes, de traditions. Il y a une chose dont on s'est aperçu, c'est que dans les montagnes pyrénéennes et alpines, et dans d'autres régions du monde, qui sont la destination de troupeaux transhumants venant passer l'été dans les hauteurs, le solstice d'été constitue un des moments clés de l'année, le pivot sommital, le pivot maximal de l'année, et il est même le début de la nouvelle année. Ce qui rejoint l'ancien calendrier grec d'Athènes, chez les Achéens, qui voulaient que la pleine lune, après le solstice d'été, marque le changement d'année. Dans nos régions, le solstice est marqué par différentes traditions. Alors, dans les pays de l'arc atlantique, depuis, je dirais presque le Maroc jusqu'à l'Irlande, on considère que des menhirs, des pierres levées, tournent sur eux-mêmes par trois fois, à midi, le jour du solstice d'été. Ces mêmes menhirs, en Quercy, sont supposés, dans la nuit du solstice d'hiver, donc le pôle opposé, le nadir du monde, sont supposés s'arracher de leur siège et aller se plonger dans des sources qui sont sous le patronage de figures du solstice d'été, ce qui montre le lien qui existe entre les deux pôles opposés de l'année. En vieux Quercy, le chanoine Sol, dans son ouvrage indispensable pour tout curieux, Le vieux Quercy, avait fait la recension de différentes coutumes qui tournaient autour des feux de la Saint-Jean et des éléments annexes, les charbons incandescents, l'eau bénite, les rameaux bénis du jour des rameaux, qui étaient utilisés en connexion avec ensemble pour protéger la maison de tous les maux. Il y avait des danses, des sauts à accomplir au-dessus du feu ou autour du feu. Rite commun à toute l'Europe. Une des traditions les plus connues consistait, le soir de la Saint-Jean, bon, ça tout le monde le sait, à faire de grands feux, et ça consistait pour les gens du pays à se rassembler en cercle autour du feu, en tournant le dos à celui-ci, pour se chauffer les reins. On considérait que la chaleur du feu de la Saint-Jean protégeait des lombalgies et de toutes les douleurs musculo-articulaires. On connaît également la coutume des herbes de la Saint-Jean, qui doivent être cueillies par espèces au nombre de 5 ou de 7 ou de 12 et de multiples de 12. Le jour de la Saint-Jean elle-même, vers midi ou dans la nuit du 23 au 24 juin. On connaît une autre tradition qui consiste à faire des croix formées de fleurs de lys ou d'épis de blé qui sont bénies par le curé de la paroisse le jour de la messe de Saint-Jean-Baptiste. Et ensuite cloué sur les portes des étables, des granges, des maisons, à l'entrée des propriétés agricoles pour les protéger toute l'année. J'ai connu cela encore conseillé dans les années 70 à certains maraîchers agriculteurs de Saint-Donès par notre fameuse plus que guérisseuse de Montcuq, qui les connaissait bien. Une autre tradition concerne les saints dont les fêtes scandent la période du solstice d'été. Ce sont des saints qui sont souvent des saints donneurs de pluie. Alors Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre, Saint-Martial, Saint-Élie sont des saints invoqués pour cela. Ce qui nous montre à travers un fait majeur de l'histoire et de la géographie sacrée du Quercy Blanc, la connexion entre les sources et le soleil du solstice d'été. Il y a à ce titre quelques sites dont il faut ne jamais négliger de parler pour ce qui est des traditions du solstice d'été en Quercy Blanc. C'est le site évidemment de Saint-Jean-le-Froid entre Lascabane et Esqueirac, mais c'est aussi des sites tels que, par exemple, mais ils sont moins connus, celui de Rouillac avec la fontaine de Saint-Julien, de Saint-Martial, de Cambeirac avec celle de Saint-Pardoux, enfin d'autres sites dont je vous avais parlé à propos des sources donneuses de pluie, et qui sont toujours illustrés par la référence au solstice d'été. Alors, pour ce jour-ci, j'avais prévu de discuter avec vous de quelques sujets. D'abord, en première partie, les traditions et légendes. En seconde partie, l'histoire et la littérature. En troisième partie, les mythes et les rites. Pour finir par un résumé autour des thèmes principaux. Alors là, je vais donc vous parler de quelque chose de plus ciblé. Les traditions et légendes du solstice d'été à notre époque. Alors, il y a un phénomène très curieux qui va se produire cette année, qui n'est pas régulier, qui est un phénomène qui rentre dans le cadre du calendrier lunaire. En cette année 2021, le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, la Lune atteindra son plein. Nous aurons la pleine Lune qui correspondra exactement à la date du solstice d'été, j'oubliais de le dire, solstice d'été liturgique. Le solstice d'été astronomique, c'est le 20 et le 21 juin. La Saint-Jean-Baptiste, c'est le vieux solstice d'été de la chrétienté et des vieilles traditions et coutumes de l'Europe la plus ancienne. Alors, le fait que cette année, la pleine lune corresponde exactement au solstice d'été est intéressant parce que je tiens d'une personne de Moroux, la Capelle Cabanac, qui vient vendre des fleurs sur le marché de Montcuq le dimanche matin, qu'en Quercy Blanc, on considère que lorsque la pleine lune correspond à la Saint-Jean-Baptiste, le temps qu'il fait ce jour-là durera toute l'année jusqu'après la Noël. Ça s'est déjà vérifié les années passées. Cette année, je pense que ça risque de se vérifier de nouveau, étant donné le beau temps clair et sec, avec vent de nord-ouest rafraîchissant, qui a régné le jour des rameaux, qui nous annonce donc des moissons sous beau temps sec, selon le proverbe bien connu, Quand pleu sul rampan, pleu sul boulan. Quand il pleut sur les rameaux, il pleut sur les moissons. S'il ne pleut pas sur les rameaux, il ne pleuvra pas sur les moissons. Ça va de soi. Le jour de la Saint-Médard, 8 juin, il a fait très beau. De nouveau, le jour de la Saint-Barnabé. Donc, un été chaud et sec s'annonce. Ce qui fait que, dans le Quercy ancien, la Saint-Jean d'été annonçait les moissons, qui commençaient traditionnellement avec la Saint-Pierre, le 29 juin. On coupait alors le blé à la faucille, et durée jusqu'à l'Assomption, 15 août, Assomption de la Sainte Vierge. La Saint-Jean d'été annonçait les moissons, or, les moissons, je viens de vous le dire, se faisaient à la faucille. Qu'est-ce que c'est que la faucille si ce n'est un croissant de lune? C'est le fameux poème de Victor Hugo, le songe de Boz, où se demandait quelle était cette faucille que le moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jetée dans le champ des étoiles. Le 15 août, bon, à fête de l'Assomption, certes, mais qui tombe, c'est le surlendemain en date impaire des Ides romaines d'août, qui étaient déjà dédiées à Diane, la déesse lunaire. Alors, pour les vieux Quercinois, les moissons, la période de la Saint-Jean-Baptiste et de la Saint-Pierre annonçaient un changement dans le régime agroalimentaire, un changement diététique. Parce qu'avec la Saint-Jean d'été s'annonçait l'abondance, la fin de la période de soudure de printemps, qui se caractérisait par l'épuisement des réserves des moissons de l'année précédente en attendant la nouvelle moisson du mois de juillet-août de l'année en cours. À la Saint-Pierre, on commençait de manger une salade des moissons, dont je tiens la recette de mon ancienne et défunte voisine Claudine Hugou, née Boudette, de Creissens, au Boulve, une salade composée de tomates, d'oignons, d'olives, de pourpiers, et qui était la nourriture de base des moissonneurs. On passait alors de la nourriture des herbes vertes printanières rafraîchissantes aux solides nourritures farineuses et carnées de l'été. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on s'imagine, les confits de canard et d'oie étaient consommés par les moissonneurs pendant les gros travaux de l'été, avec des pommes de terre revenues dans l'ail et le persil. C'était là une cuisine quercinoise qui est tout à fait différente de celle que popularisent les émissions de télévision. Par ailleurs, toujours dans le domaine de l'alimentation ou de la diététique, les herbes de la Saint-Jean. entre dans la catégorie des traditions de cueillette médicinale et même magico-médicinale, reliées à telle ou telle date de l'année ou au moment de l'année. Disons, pour faire simple, que les plantes qui fleurissent vers le solstice d'été doivent être cueillies en nombre impair, 7 en général, et peuvent être vues comme des herbes de santé en raison du fait qu'elles capteraient les vertus du soleil comme source de vie. Ce qui rejoint dans nos régions une des fonctions d'un grand dieu gaulois complètement oublié, Belenos, Apollon Granos, l'Apollon gaulois, qui a été le patron protecteur du site de Granuéjouls, par exemple, la clairière sacrée d'Apollon Granos, mais aussi certainement de la fontaine des vertus à Belmonte, Wirotutis, le protecteur de la tribu. On est donc là, si vous voulez, en Quercy-Blanc, à une période où plusieurs sites de sources sont marqués par la prégnance des divinités solaires de la vieille Gaule. Ce qui pose le problème du reste des origines même des traditions de la Saint-Jean. Lorsqu'on sait que celles-ci sont connues dans des régions qui n'ont jamais vu le moindre Gaulois. Vous avez beaucoup de régions d'Europe ou du bassin méditerranéen où les traditions de la Saint-Jean sont très suivies alors qu'il n'y a jamais eu de Gaulois ni de Celtes, y compris en pays musulmans. Dans la France d'Ancien Régime, la Saint-Jean était une fête fériée et chômée, ce qu'elle a cessé d'être avec la Révolution. Au moment des négociations pour le Concordat en 1801 entre Napoléon et le pape Pie VII, on a hésité à rétablir le caractère férié et chômé de la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin. Ça a été abandonné, alors que c'était le cas sous l'Ancien Régime. C'est vraiment la tradition qui a perduré le plus longtemps. Elle est de nos jours en voie d'oubli et de disparition. Mais disons qu'encore jusque sous Louis XIV, pour ce qui est de Paris, mais c'était vrai partout ailleurs, dans toutes les paroisses de France et même dans tout l'Occident, il était de tradition d'allumer un feu de la Saint-Jean-Baptiste, mais on en allumait également pour Noël, pour Pâques, pour le 15 août, sur le parvis devant les églises. Et à Paris, ça se passait sur le parvis devant Notre-Dame, où on entassait un énorme bûcher composé de tous les déchets que l'on pouvait imaginer, les vieilles chaussures, les vieilles nippes, les vieux vêtements, le vieux bois pourri, tout était mis à brûler. Et ça présentait un risque d'incendie dans l'île de la Cité. L'évêque de Paris arrivait tenant le cierge pascal allumé, qu'il transmettait, qu'il passait au roi de France, lequel était le seul en droit d'allumer le feu de la Saint-Jean sur le parvis devant Notre-Dame. Alors le roi allumait le feu de la Saint-Jean avec la flamme du cierge pascal. La coutume a été abandonnée sous Louis XIV à cause de risques d'incendie. Alors il faut noter là, que dans la symbolique de la chose, que le roi qui est le porteur de la fleur de lys, en fait la fleur d'iris des marais, la fleur d'iris flamme, est en quelque sorte le seul compétent pour allumer le feu de la Saint-Jean. Dans l'île de la Cité, devant Notre-Dame, pas loin de ce qui a peut-être été un ancien temple d'Isis, l'égyptienne. La fleur de lys qui marque, qui est le symbole des rois de France, pour nous n'est pas sans lien. Bon, certes, la même coutume se trouvait dans toutes les paroisses du Quercy, encore pendant l'entre-deux-guerres, où le feu de la Saint-Jean était souvent allumé devant l'église. Le curé de la paroisse bénissait le feu, et c'était lui-même qui allumait le bûcher. Mais on a remarqué que la plupart du temps, les feux de la Saint-Jean devaient être allumés plutôt sur des hauteurs. Le parvis devant l'église étant une espèce de hauteur symbolique. Pour nous, ce n'est pas sans intérêt lorsqu'on sait que dans l'église Saint-Aignan de Rouzé, dans l'angle sud-est, la base de la colonne d'angle est ornée d'une frise comportant, entre autres choses, une fleur de lys. Cette fleur de lys n'est pas le lys à proprement parler de la Madone, c'est en fait, à travers cette fleur du solstice d'été, c'est plutôt, pense-t-on, la fleur d'iris des marécages, ça pourrait être aussi l'asphodèle du Proche-Orient, le lys de la vallée de Yisrael, la dépression qui fait communiquer le bassin du lac de Tibériade avec la Méditerranée. Cette asphodèle abonde en Quercy-Blanc, notamment dans la vallée de la Séoune, tout autour de Saint-Aignan, où est sculptée la fleur de lys dans le cœur de la dite église. Le lys serait en quelque sorte le soleil du solstice d'été représenté sous forme d'une fleur. Cette fleur de lys du solstice d'été, ce soleil en quelque sorte, rejoint le sens même du terme qui dans les langues slaves signifie saint de sainteté, puisque le même mot désigne à la fois les fleurs, les étoiles et le soleil, et les saints. Dans nos régions, les traditions populaires des campagnes de l'ancienne Gaule pourrait être prise à travers l'image un peu romantique que l'on s'en fait pour des perpétuations de traditions celtiques, de traditions druidiques. Or, il se trouve que, de la Loire aux Pyrénées, ces traditions sont communes à toutes les populations. Or, nous savons par Jules César qu'il n'y a jamais eu de Gaulois au sud de la Garonne, entre la Garonne et les Pyrénées. Nous savons que la celtisation de nos régions est très récente, elle date de 300 avant notre ère. On sait que ces traditions, on les retrouve dans les régions d'Espagne qui n'ont jamais été celtisées, et on les retrouve également au Maghreb. Et toujours à propos du culte de Saint-Jean-Baptiste, ce qui fait dire qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus ancien que le christianisme, certes, christianisé, certes, mais qui n'a rien à voir avec la celtisation de nos régions, qui n'a rien à voir avec l'expansion des peuples celtiques ni des peuples indo-européens, même si c'est des traditions communes à tous les peuples celtes et indo-européens. En fait, c'est une tradition qui est commune à toute l'Europe et à tout le bassin de la Méditerranée. Ces feux du solstice d'été ont un enracinement local assez puissant. Je me souviens, étant enfant, d'un retour un soir de Saint-Jean-Baptiste d'un voyage scolaire qui nous avait fait passer quelques jours dans le sud de la Gascogne, au Pays Basque, la région de Hossegor et Biarritz. Et de retour le soir, nous voyons à travers toute la Gascogne, depuis les hauteurs des Pyrénées jusqu'à Montcuq, tout le long des vallées que nous remontions, les coteaux, les hauteurs, les tucs, être marqué par des feux flambants de la Saint-Jean-Baptiste, qui se perdaient à l'horizon vers Ville-Sec, Saint-Jean-le-Froid, la montagne, la Bastille de Marnac. C'est vraiment là que j'ai senti la prégnance de cette tradition dans l'Europe et dans le sud-ouest et dans le bassin aquitain ancien. Ce n'est pas sans intérêt lorsqu'on songe à l'aura magico-religieuse qui est celle qui imprègne des sites comme Saint-Jean-le-Froid autour du solstice d'été, mais qui marque également toutes les hauteurs, notamment celle sous le patronage de Saint-Michel, qui est l'héritier, on le sait, du grand dieu gaulois des hauteurs, Loug. Saint-Michel, Saint-Patron de Ville-Sec, où se trouve une source Saint-Jean de la Rivière. On retrouvait la même chose à Cahors avec Roquebilière, la roche de Bélos-Loug, au pied de laquelle se trouve de nos jours le pont Valentré. Pont Valentré, à l'entrée ouest duquel se trouvait une chapelle de Saint-Michel. On le retrouve également à Granuéjouls, ancien lieu sacré de Belenos Grannos, la clairière sacrée de Grannos, Grano Iaolum, qui a donné Granuéjouls, et dont la sainte patronne est Notre-Dame dans son Assomption, mais qui est un site d'où l'on pouvait voir au sud les monts des Pyrénées et au nord les monts d'Or, marqué par le temple du dieu gaulois Loug. Ce dieu gaulois à Granuéjouls, Apollon Grannos, Apollon Belenos Grannos, évoque la vision de Constantin, le chrisme, le soleil, le Christ-soleil. On a donc là, en Quercy-Blanc, avec Ville-Sec, Granuéjouls, Saint-Jean-le-Froid, des sites qui sont des hauts lieux solaires. Et hauts lieux solaires, particulièrement, marqués d'aura magico-religieuse pour le solstice d'été. Il faut savoir que, pour les Celtes, qui se repéraient dans l'espace en se tournant vers l'est, vers le soleil levant, les pays au sud, à leur droite, étaient des pays de l'été. C'était de bons pays de toutes les abondances. Ils les appelaient des pays blancs. En gaulois, ça se dirait quelque chose comme « windos argantos » ou « leukos ». Il y a plusieurs mots pour dire blanc. On a « leukos », qui est aux origines du nom même de l'usèche, « leukotiakos ». On a « windos », on a « argantos », d'où le nom du pêche argan, à Saint-Cyprien, à côté de Montcuq, à côté du château de Marcillac. Et on a aussi donc Windows Bone n'a pas laissé grand-chose dans nos régions. Alors, il faut savoir qu'un acte latin du 8e siècle, qui est conservé du reste dans l'histoire générale de Languedoc de Don de Vic et Vécette, décrit le Quercy, le Pagus Caturcinus, comme composé de deux petits pays, de deux pagi. Au nord de la vallée du Lot, à gauche de qui regarde le soleil levant, se trouvait le Pagus Niger, le pays noir. Et au sud de la vallée du Lot, le Pagus Albanus, le pays blanc, le bon pays de l'été et de toutes les abondances. Ça veut dire que pour les anciens Gaulois du Quercy, les Cadurci ou les Caturci, le Pagus Albanus, le Quercy blanc, c'était le Quercy du Sud. C'était le pays de toutes les abondances. Ça fait donc du Quercy blanc un pays qui est particulièrement marqué par ce qu'on pourrait appeler les traditions, rites et coutumes du solstice d'été. Alors ce sont des traditions qui tournent autour du feu, toujours brûlant sur des hauteurs, feu qui constitue un axe vertical ascensionnel vers le ciel. Ça, c'est la mythologie du feu selon Gaston Bachelard. Mais ce feu est aussi une espèce de serpent qui convolvule vers le ciel. C'est l'axe d'énergie de l'univers, qui se manifeste également par les sources et rivières, qui sont des serpents ondulants, représentant le flux de l'énergie universelle. Ce que l'on retrouve, certes, à Saint-Jean-le-Froid, à travers le mythe de Saint-Jean-le-Froid, l'union du soleil naissant dans les eaux résurgentes à minuit, au nadir du monde, le feu et l'eau qui se conjuguent, la lumière qui plonge dans l'eau, Saint-Jean-le-Froid qui est le lieu de résurgence et de rencontre entre les flux de l'énergie universelle, les eaux qui remontent du nadir du monde vers le zénith, le feu du zénith solaire qui descend vers le nadir. Au fond, c'est un flux cyclique continu d'échange entre les pôles énergétiques opposés. Alors, en Quercy-Blanc, les sources sont en quelque sorte l'émergence de cours d'eau souterrains assimilés à des serpents. On le voit très bien dans le cœur de Saint-Aignan-de-Rouzé, où un serpent ondulant figure l'énergie universelle. On le retrouve dans le cœur de Rouillac, où le serpent de la Genèse est figuré convolvulant vers le haut, en rapport avec la source de Saint-Julien, qui est aussi sous le patronage de Saint-Pierre au 29 juin. Saint-Julien, source donneuse de pluie. On le retrouve à Cambeyrac, avec la source de Saint-Perdoux, qui est la source d'un saint de lumière, et où figure une serpente sous le rebord du toit, côté sud extérieur du mur du cœur. On le retrouve à Belmonté, avec Mélusine en serpente, en dame serpente, et la source des vertus d'Apollon Belenos, Virtutis, et de Saint-Avit. On le retrouve à Villesec, avec Saint-Michel, patron de l'église, la vanité au serpent sculpté sur le rétable, et avec la source de Saint-Jean-Baptiste, qui est une source du solstice d'été. On est donc là, en Quercy-Blanc, avec plusieurs sites qui sont porteurs de ce légendaire du solstice d'été. Et je voudrais aborder là maintenant la question à propos des mythes et des rites du solstice d'été en Quercy-Blanc. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même savoir. Les feux de la Saint-Jean-Baptiste et les traditions annexes était une espèce de ritualisation chrétienne, liturgique, populaire, du passage de la phase évolutive de l'année solaire, c'est-à-dire du passage entre la croissance des jours jusqu'au solstice d'été et leur décroissance jusqu'au solstice d'hiver. On appelle cela une porte de l'année, c'est un passage, si vous voulez. Et ce passage entre la phase croissante de la course solaire, de la course annuelle du soleil dans le ciel et sa course descendante est marqué donc par des rites et des mythes tels que par exemple les feux de la Saint-Jean. Alors, en Quercy-Blanc, c'est beaucoup plus intéressant parce que nous avons une très forte prégnance des rites et des mythes du solstice d'été autour de la personne de Saint-Jean-Baptiste, beaucoup plus que Saint-Jean l'évangéliste, et notamment à Saint-Jean-le-Froid. Alors, je vais apporter un complément à ce que j'avais dit sur Saint-Jean-le-Froid. Il y a une petite historiette qui est raconté par les gens de Lascabane à titre de marque de ce qu'on appelle l'esprit fort, si vous voulez. C'est-à-dire la mise en doute, la mise en question de toutes les traditions à titre de superstition. On m'a dit, oh certes, oui, la source de Saint-Jean-le-Froid, elle doit ressurgir à minuit du solstice d'été miraculeusement, mais en fait, m'a-t-on dit, c'était tout simplement des paysans des environs qui apportaient de l'eau dans des barriques et la versaient dans le bassin de la source à minuit. Alors je tiens le récit très exact de la petite fille de ces paysans, coupable de cette escroquerie, on peut dire intellectuelle. C'est la défunte Nicole Ossarès, née Besse, charcutière au faubourg de Montcuq, qui m'a dit que c'était ses propres grands-parents, les Besse, métayers du domaine de Saint-Géry, qui, le soir du 23 juin, devaient traditionnellement, en tant que métayers du domaine, c'était les métayers du domaine de Saint-Géry qui étaient chargés de ça, ils devaient porter de l'eau dans des barriques, chargées sur des chars à bœufs, donc des bœufs, hein, l'animal en rapport avec la lune, à la grotte source de Saint-Jean-le-Froid. Alors ils montaient, non pas, ils ne versaient pas directement par la porte, ils montaient sur le rocher qui surplombe la grotte. Il y a là un trou percé dans la voûte, alors naturel ou artificiel, je n'en sais rien. À travers ce trou, ils versaient l'eau dans le bassin intérieur de la grotte, et imitant ainsi la chute de la pluie, et faisant en quelque sorte artificiellement ressurgir la source. Or, ça faisait sourire et rire même certaines personnes. En fait, c'était très curieux, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve là les mêmes rites, les mêmes coutumes, les mêmes traditions que chez les Berbères du Maghreb. Berbères devenus musulmans depuis la conquête arabo-musulmane, mais qui ont été longtemps chrétiens. Le Maghreb a été chrétien pendant 5 ou 6 bons siècles avant de devenir progressivement et petit à petit musulman. Il y avait encore des évêchés chrétiens au Maghreb au 11e, 12e siècle de notre ère. Et de nos jours encore, les Berbères du Maghreb, qui suivent le calendrier romain julien, antérieur à notre calendrier grégorien, calendrier qui est en retard d'à peu près 11 jours par rapport au nôtre, pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, qui est un saint cité dans le Coran, donc c'est un saint, un prophète musulman, enfin un prophète monothéiste, un prophète en arabe, on dirait c'est un hanif, un mystique ascète, comment dirais-je, adepte du culte du Dieu unique. Et Saint-Jean-Baptiste est cité dans le Coran, donc si vous voulez, les rites du culte de Saint-Jean-Baptiste, comme de tous les autres saints de l'islam maghrébin, est reconnu comme orthodoxe. Et donc les Berbères, pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, et de nouveau pour celle de Saint-Élie, le 16 juillet, se livrent exactement au même rite. Lorsque les sources, sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste ou de Saint-Élie, sources auxquelles on se rend en pèlerinage pour obtenir la pluie ou la guérison de différentes maladies, de façon très spontanée et naturelle, sans se cacher, prennent de l'eau, si ces sources sont taries, prennent de l'eau dans les puits, les rivières qui coulent encore, et les versent, en magie imitative, imitant la chute de la pluie, les versent dans les vasques de ces sources pour faire revenir la pluie. Il y a d'autres rites qui sont pratiqués, dont parle Jean Servier dans ses Portes de l'année et Émile d'Hermenghem dans son ouvrage sur le culte des saints dans l'islam maghrébin. Mais on retrouve ces mêmes rites dans les pratiques et les traditions des populations médiévales, notamment à travers ce que nous en dit les hérétiques du pays de Foix, dont les confessions ont été recueillies par l'évêque de Foix, Jacques Fournier, futur pape Benoît XII au XIVe siècle. Registre inquisitoriaux publié par Jean Duvernois, où on retrouve beaucoup de traditions et de mythes anciens. Cela évoque donc, à travers, comment dirais-je, l'état naturel du site de Saint-Jean-le-Froid, on retrouve la géographie et la cosmologie pré-scientifique de toute la Méditerranée ancienne. Le ciel, conçu comme une voûte dure de pierre, de bronze ailleurs, d'où le fait que les Gaulois ne craignaient qu'une chose, que le ciel, c'est-à-dire la voûte de pierre du ciel, leur tombe sur la tête. Le ciel, voûte dure, qui contient, qui retient les eaux supérieures, eau qui tombe sous forme de pluie, lorsque le maître du ciel d'en haut, le dieu du bien chez les cathares, ouvre des vannes, des orifices percés dans cette voûte, l'orifice sommital de la voûte de la grotte de Saint-Jean-le-Froid, orifices à travers lesquels tombe la pluie. On retrouve un peu la même chose à travers les livres des prophètes de la Bible, Élie au Mont Carmel qui obtient la pluie contre les rites pratiqués par les prophètes de Baal Shamin, le seigneur du ciel. Élie obtient que le feu du ciel tombe sur le sacrifice qu'il a préparé lui-même, à la suite de quoi une pluie bienfaisante, des nuages montent de la Méditerranée et viennent fertiliser, féconder la terre de Palestine desséchée par une longue sécheresse. On retrouve donc un peu le même mythe à travers celui de Saint-Jean-le-Froid où, je vous l'avais raconté, la Despratoune me disait qu'une sécheresse terrible avait tari toutes les sources et rivières du Quercy Blanc et menacé la survie du pays. Alors donc, à travers ce ciel conçu comme une voûte de pierre, à travers lequel tombe la pluie et les eaux supérieures, on retrouve donc une même cosmologie. Or, le Maghreb, je vous le disais, est une région du monde où il n'y a jamais eu de Gaulois, il n'y a jamais eu de druides. Donc ça prouve bien que cette mythologie, ces mythes, ces traditions n'ont rien à voir avec le druidisme ni avec la celticité. C'est plutôt en rapport avec une cosmologie beaucoup plus ancienne qui est commune à toute l'Europe méridionale et à la Méditerranée et qui voit, je vous l'ai dit 50 fois, la Terre comme un disque plat flottant sur les eaux inférieures, d'où remontent les eaux de source, ceinturées de montagnes où naît le soleil le matin et où il disparaît le soir, soleil qui court sous la voûte céleste elle-même, dure, qui retient les eaux d'en haut, les eaux supérieures. On est donc là dans une cosmologie tout à fait différente et qui survit à travers des mythes et traditions. Alors, Pour en revenir à Saint-Jean-le-Froid, il y a quelque chose qui est intéressant pour la période où nous allons entrer, puisqu'il y a le dimanche qui suit la Saint-Jean-Baptiste, il y a une grande fête, enfin une fête locale, une fête communautaire, locale, collective, qui rassemble tous les Carcinols, tous les Occitanisans du pays de Carcy-Albin, du pays de Quercy-Blanc, pour une messe célébrée devant la chapelle par un prêtre du diocèse ou du diocèse voisin de Montauban. Je crois qu'en général, c'est l'abbé Georges Passerat, Zordi Passerat, que je connais très bien par ailleurs, qui vient célébrer une messe en occitan. Et à la suite, il y a une petite fête qui dure toute la journée et on mange un gâteau particulier qui n'est confectionné qu'à Saint-Jean-le-Froid et uniquement pour le solstice d'été, l'ail tresegos. L'ail tresegos, ça s'écrit tresegas quand on écrit l'occitan. Ce sont des gâteaux frits et sucrés en forme de tresse circulaire et qui évoquent la forme des nœuds avec lesquels on attachait les bœufs au joug. C'est donc en lien avec le motif de la sécheresse terrible qui menaçait la survie du bétail, que m'a raconté Berthe Laporte. C'est aussi une évocation du char tiré par des bœufs transportant l'eau dans des barriques depuis le domaine de Saint-Géry. Saint-Géry qui du reste n'est pas Saint-Didier de Cahors, c'est en fait Aegidius, Saint-Gilles, célébré le 1er septembre, et qui est le saint patron des comtes de Toulouse, seigneur de Montcuq, et des familles seigneuriales de Lascabane et de Saint-Pantaléon, cadettes des sires des comtes de Toulouse. On est donc là avec ces différents thèmes. Alors, le char tiré par des bœufs, l'eau qui tombe de la voûte, l'élevage du bétail. On est donc là dans le cadre d'une économie à la fois de laboureurs, d'agriculteurs et de pasteurs, d'éleveurs de bétail, de producteurs de céréales et d'éleveurs de bœufs. On rentre dans le cadre de ces moissons qui commençaient à la Saint-Pierre le 29 juin pour durer jusqu'au 15 août. On est dans le cadre d'une économie dont les origines remontent jusqu'au début du Néolithique, vers 5000 avant notre ère. On est donc là dans le plus vieux Quercy des origines, celui qui est illustré par ses rites et traditions, et c'est ce que nous verrons, je pense, la prochaine fois, dans le cadre d'une nouvelle émission encore plus développée. Car j'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment à propos de rites et traditions du solstice d'été dans l'Espagne musulmane, en rapport avec la civilisation des troubadours occitans du Moyen-Âge. Il s'agira de deux textes, un en espagnol médiéval et avec arabisation de certains vers, et l'autre d'un texte en occitan, le roman de Flamenca. Le texte en espagnol, Matinée d'Arabe, est connu, et celui de le roman de Flamenca également. Je vous parlerai donc de ces deux textes médiévaux anciens qui tournent autour des rites du solstice d'été, et ce sera diffusé dans 15 jours. Merci, à une autre fois. Au revoir.
Thank you. ceinture dorée.